Bonjour à tous, on va prier. Merci Seigneur pour ta parole qui a déjà été annoncée ce matin, Seigneur. Merci pour Jésus, Seigneur. Je te rends grâce pour ce nom magnifique, cette œuvre parfaite qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons être sauvés. Seigneur, que ce matin ce soit ta parole qui soit donné et annoncé, et rien d'autre. Seigneur, que ton esprit puisse toucher les cœurs de ceux et celles qui sont dans le doute, ceux et celles peut-être qui traversent des tempêtes. Seigneur, que tu puisses parler avec la douceur qui t'est commune, Seigneur, qui t'est commune, qui est en toi, Seigneur, que tu puisses poser ta main sur les cœurs. Amen. Ce matin, j'aimerais vous emmener dans un récit qu'on connaît tous. C'est le récit de lorsque Pierre marche sur les eaux. Donc ça se trouve en Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Donc, on va le lire. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alors, lorsqu'on lit ce texte, on peut se poser une question, pourquoi ? Les disciples ont pris peur parce que c'est Jésus qui les envoie. Allez avant moi. Mais lorsque la tempête est là, la confiance fait place au tourment. On oublie et ils ont oublié que c'est Jésus qui leur avait ordonné d'aller. Lorsque le vent est contraire, lorsque la barque commence à être ballottée par les vagues, lorsque le temps passe, parce qu'on est à la quatrième heure, donc 3 heures du matin, la situation devient épouvantable. Les corps et les esprits sont fatigués. Et c'est à ce moment-là que Jésus approche. Dans nos vies, on peut rencontrer les mêmes choses. Rencontrer les mêmes problèmes. Notre barque est ballottée à droite et à gauche. Et c'est à ce moment-là que Jésus s'approche. Mais il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que les disciples ne reconnaissent même pas Jésus. Est-ce qu'au milieu de nos tourments, est-ce qu'au milieu de nos tempêtes, dans notre barque, on reconnaît Jésus qui vient. Et pourtant, on peut lire quelques chapitres avant, c'est lui-même qui arrête les flots. C'est lui-même qui arrête la tempête au chapitre 8, verset 27. Et il se pose la même question. Mais qui est celui qui commande les vents et la mer? Est-ce que dans nos vies, lorsque Jésus intervient, on se pose cette question? Mais qui est celui qui vient dans ma vie? Qui est celui qui vient dans ma vie? Alors les disciples croient voir un fantôme. Ils prennent peur, ils crient. Combien dans les pires moments de nos vies, notre esprit d'homme est faible? Combien les angoisses peuvent altérer notre vision de Jésus? Parce que beaucoup disent qu'il m'a abandonné. Au moment où il y a la tempête, au moment où il y a les flots, il m'a abandonné. Et ils ne voient pas ce Jésus venir à eux, sur leur tempête, sur les vents de leur vie. Ils ne reconnaissent même pas ce Jésus. Parce que Jésus ne laisse aucune personne dans l'angoisse. Et on voit ici les paroles qu'il dit, « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Celui qui peut tout en tout vous dit ce matin, « N'ayez pas peur. » Même si le vent se lève, même si votre barque est ballottée à droite et à gauche, n'ayez pas peur, c'est moi. Christ veut venir dans vos vies ce matin. Même si vous avez la plus belle des barques, même si vous vous sentez en sécurité, il veut venir dans votre barque. Et ce matin, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis capable d'entendre la voix de Christ dans ma vie qui dit « N'aie pas peur ». N'aie pas peur, c'est moi. Tous les croyants, personne n'est mis à part dans les tempêtes. On est tous engagés dans une traversée difficile. Et on le voit avec nos frères et sœurs qui sont persécutés. Vous imaginez les tempêtes qu'ils traversent, eux, c'est des ouragans. Nos nuits sont peut-être sombres. Les vents sont plus que contraires. La mer est agitée et on a peur de sombrer. On a peur de tomber, on a peur de chuter. Mais ce Jésus s'est marqué qu'il est sur la montagne. Il a envoyé ses disciples, il est sur la montagne et il prie. Il prie pour chacun d'entre nous. On l'a vu mardi soir avec l'avocat, Jésus est auprès du Père et il prie pour nous. Si vous allez dans Hébreux chapitre 7, le dernier verset, vous avez tout l'entame que Paul explique, que Jésus est plus grand que Melchisédek, qui était un sacrificateur, mais sacrificateur jusqu'à la mort. Mais Jésus est sacrificateur à l'éternité, puisque Jésus n'est pas mort. Et au verset 25, il dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Christ intercède pour nous auprès de Dieu. C'est fantastique de savoir ça. C'est fantastique de savoir que ce Jésus, dans ce récit, dans toute la parole, vient à nous. Il est capable de marcher sur les éléments de nos vies. Même au plus fort de la tempête, il vient. Et il n'est pas dit que Jésus crie. Il parle, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce matin, c'est ce que Jésus veut faire Il veut venir au milieu de vos tempêtes, au milieu de tout ce qui fait votre vie. Il veut venir dans votre barque. Et on doit se réjouir que Jésus est proche. On doit se réjouir. Toutes les églises devraient se réjouir du retour de Christ. Au lieu d'être troublées par les circonstances qui font toutes nos vies, par tout ce qu'on entend, parce que Jésus les domine par sa simple présence. Il marche sur nos mers, il marche sur nos tourments, il marche sur nos tempêtes, il marche sur nos orages. Et il nous encourage chacun à regarder à lui, par la foi. Il n'est pas une ombre, comme ici les disciples qui l'ont pris pour un fantôme, c'est pas une ombre, c'est un phare. Et ça doit être un phare dans nos vies. Un phare lumineux qui éclaire nos vies par sa simple présence. On n'est plus troublé. Parce qu'on sait qu'il vient vers nous. Parce qu'on sait qu'il marche sur la mer. Il domine les éléments. Il domine toutes les choses qui sont sur nos vies aujourd'hui. Pierre a parfaitement distingué la voix du Seigneur. Et dans un élan de foi, il se lève. Malgré les circonstances, il se lève. Et il veut aller à Jésus. Et Jésus lui dit un mot. Il lui dit, viens. Est-ce qu'on se lève au milieu de nos vies? Est-ce qu'on se lève au milieu de nos tempêtes? Malgré que Jésus nous dise, viens. Pierre n'a pas attendu. Il s'est levé. Et il est allé vers Jésus. Et c'est une scène unique. Vous pouvez chercher dans les quatre évangiles, c'est le seul moment où est relaté ce miracle d'un homme qui se lève et qui marche sur les eaux de la mer à l'appel de Jésus. C'est vraiment un acte de confiance, un acte de foi. Et on ne pense pas que ce miracle a été renouvelé. Mais il prouve une chose, c'est comment Dieu peut soutenir les siens au-dessus des plus grandes tempêtes, au-dessus de la nature. Dieu est capable de nous faire faire des choses impossibles, comme Pierre a été capable de marcher sur la mer. Et à cet instant, Pierre marche réellement par la foi. À cet instant-là, il marche réellement par la foi. Donc ça nous montre ici, dans ce récit, que par la foi, nous sommes capables d'accomplir des exploits. Parce qu'on regarde à Christ. Nous avons un héritage qui revient à chacun des croyants. Et celui dont Christ est lui-même héritier. En Romains chapitre 8, versets 1 et 2, on peut lire « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aucune condamnation. Est-ce qu'on l'a oublié, ça? Est-ce qu'on a oublié que c'est le sang de Christ qui nous a sauvés et il n'y a plus aucune condamnation? Ça devrait transformer nos vies, nous rendre heureux, nous rendre espérants. Ne plus regarder les circonstances de nos vies, parce qu'on sait que nos vies sont devenues éternelles en Christ. Le verset continue. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » La loi de Christ, l'Esprit qui vit en nous, on en parle le mardi, le Saint-Esprit, c'est cet Esprit qui vit en nous, qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu, qui témoigne que le sang de Christ a coulé sur nos vies et nous sommes plus sous la condamnation. Nous sommes vivants en Christ. Mais bien aimé, c'est une promesse qu'il faut saisir dès maintenant. Si vous êtes en Christ, vous n'êtes plus condamné. Vous êtes dans la joie éternelle. Adam a reçu exactement la même nature que nous. Nous sommes filles et fils d'Adam. Mais à cause du péché, cet héritage a été corrompu. Et ceux qui ne sont pas en Christ vont subir la condamnation de Dieu. Et c'est en fin de compte la mort de Christ, c'est en fin de compte notre attachement à Christ qui fait que nous sommes devenus héritiers de Jésus-Christ. En Hébreu 1, chapitre 1, versets 2 et 3, « Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » La direction qu'a prise Jésus-Christ à la droite du Père, nous héritons de la même position. Vous imaginez que l'homme qui n'est pas régénéré ne peut pas voir Dieu. Et nous, chacun, qui sommes en Christ, allons voir Dieu. La gloire de Dieu. C'est l'espérance de chacun des croyants. Le sang de Christ a été versé pour la purification et la rédemption. Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je trouve ce verset magnifique de ce que Dieu s'est acquis. On est devenu l'acquisition de Dieu, la chose de Dieu, les êtres de Dieu, les enfants de Dieu par Christ et seulement par Christ. Pas par nos œuvres, comme l'a bien expliqué Emmanuel, pas par la religiosité, mais par Christ. On ne va au Père que par Jésus. Ce qui est important de savoir, c'est que déjà le croyant est déjà par la foi dans la partie céleste de cet héritage. Nous avons déjà, je vais dire littéralement, un pied dans le ciel en Christ. Et Dieu nous conserve dans cet état. Israël, quand on lit l'histoire d'Israël, Israël a corrompu par son idolâtrie cet héritage. Mais celui que Dieu conserve dans les cieux est hors d'atteinte du péché et de la mort. Si maintenant sur terre tout sèche et tout flétrit, la nouvelle création de Dieu dont Christ est le commencement sera conservée dans une fraîcheur éternelle. Nous sommes chacun, ceux qui sont en Christ, conservés dans une fraîcheur éternelle. Ce qui est incroyable, c'est que quand on lit tout ce qui fait la mort, la résurrection, on nous dit que on va ressusciter dans un corps incorruptible. Le corps que nous connaissons aujourd'hui ne sera plus le même. Ce corps pour aller voir Dieu sera incorruptible. Vous imaginez l'image que ça peut donner, la puissance de Dieu. Nous qui sommes la création de Dieu, en Jésus-Christ, on devient un corps incorruptible. C'est-à-dire que Dieu, en Jésus, change notre nature. Et c'est une espérance magnifique de savoir qu'on va être conservé dans une fraîcheur éternelle. La question qu'on peut se poser au milieu de ce récit, pourquoi Pierre faiblit soudain ? Pourquoi il commence à s'enfoncer alors qu'il était pratiquement arrivé sur Jésus ? Est-ce que Jésus, celui qui lui a dit « Viens », va-t-il le laisser sombrer ? Il y a un fait qui est clair, c'est que Pierre n'a pas gardé les yeux fixés sur Jésus. Pierre a regardé autour de lui, il a regardé la tempête, il a regardé les flots et il a commencé à sombrer. Il a commencé à être épouvanté parce qu'il entourait, alors que Jésus lui a dit « Viens ». C'est comme s'il lui disait « Aie confiance en moi et viens ». Le problème des croyants, mes bien-aimés, c'est que parfois on oublie de garder les yeux fixés sur Jésus. On regarde nos pieds. Faites l'expérience. Vous allez, si vous rencontrez un funambule, posez-lui la question « Mais comment tu fais pour marcher sur une corde ?» Il va vous dire « C'est très simple, je regarde mes pieds. » C'est totalement faux. Si le funambule commence à regarder ses pieds, il tombe. Il tombe. Le funambule regarde droit devant. Devant lui. Et il marche droit. C'est ce que Jésus nous demande. Regardez-moi et vous marcherez droit. Vous ne tomberez pas. Je t'ai appelé, je t'ai dit viens. Pourquoi tu n'as pas confiance ? Il faut savoir que même par temps calme, Dieu nous soutient. Est-ce qu'on en a la conviction que Dieu ne vient pas seulement quand il y a des tempêtes dans nos vies, mais au quotidien, il est présent. Et Pierre a douté, et ça lui a été fatal. Il a regardé autour de lui, il a regardé sa condition, il a regardé que peut-être il allait mourir, et il a sombré. Alors que s'il avait gardé les yeux fixés sur Jésus, il aurait connu l'étreinte de Jésus au milieu des flots, au milieu de la tempête. Le récit ne nous le dit pas, mais on le sait. Que s'il avait gardé les yeux fixés sur Jésus, il serait allé directement dans les bras de Jésus. Alors incroyable, au moment où il s'enfonce, il dit « Au secours, viens me sauver !» Et Jésus arrive, il est là et lui tend la main. Alors quand on regarde ça, on se dit « Bah oui, Jésus, il est là, il nous sauve. » Mais il y a autre chose derrière. C'est que malgré nos doutes, malgré ce manque de foi, Jésus vient quand même. Et ça, c'est un formidable message d'espoir pour ceux qui chutent dans leur vie de croyant. C'est que même si on chute, l'amour de Christ est tellement fort qu'il viendra. Il viendra nous sortir, nous tirer de là où nous sommes. Même si dans nos tempêtes, on ne fait pas appel à Jésus, il viendra et il va nous tirer. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Et il dit à Pierre, homme de peu de foi, si tu avais gardé tes yeux fixés sur moi, tu ne serais pas là. Je n'aurais pas été obligé de venir et de te tirer de là où tu t'es mis. Parce que ce n'est pas Jésus qui l'a mis dans cet état. C'est Pierre. Et parfois dans nos vies, c'est la même chose. C'est nous qui nous mettons dans des états pas possibles. Et quand c'est au plus mal, on dit « Seigneur, viens m'aider !» Alors que si on avait gardé les yeux fixés sur Jésus, on serait allé de l'autre bord. Si on reprend les paroles qui ont été données, Pierre dit « Seigneur, si c'est toi, nous connaissons Jésus. » Nous connaissons sa personne, nous connaissons sa puissance. Pierre dit, commande-moi, commande-moi, demande-moi de marcher sur la mer. On s'incline, nous nous inclinons devant l'autorité de sa parole, avec un seul désir, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Lorsque Jésus a dit à Pierre, viens, Pierre s'est levé et il a marché. Il a obéi à la parole de Jésus. Commande-moi d'aller à toi. D'aller à toi. Jésus doit être le seul but de notre vie. Et on doit garder nos yeux fixés sur lui. Sur les eaux. Pierre dit, commande-moi de marcher sur les eaux. Il n'y a aucun obstacle insurmontable par Dieu. Aucun. La foi triomphe de toute chose. Nous avons un Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Même lorsque les humains disent, on ne peut plus rien faire, Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de l'impossible. Est-ce que vous pensez sincèrement que pour un homme, marcher sur les eaux, c'est normal? Et pourtant, simplement le fait de répondre à la parole à l'ordre de Jésus, viens, fait que Pierre a fait l'incroyable. Dans sa marche constante au-dessus des eaux, de nous, de nos circonstances, le Seigneur reste et doit rester le modèle parfait. Parce que Jésus n'a pas sombré, il est allé vers la barque, il n'a pas sombré. Seulement, il y a une question, c'est lequel d'entre nous n'a pas sombré par manque de foi ? Lequel d'entre nous n'a pas crié un jour « Seigneur, sauve-moi des circonstances de ma vie » ? À qui on a crié ? La question reste posée. À qui on a crié ? Pierre s'est adressé à Jésus. Il a dit « Sauve-moi ! » Il n'a pas appelé ses copains dans la barque. « Hé, je témoigne bouée !» Jésus, sauve-moi ! Parce qu'il savait que Jésus était le seul capable de le sortir de ce mauvais pas. Malgré la tempête, parce qu'il y a toujours la tempête, malgré les flots, Jésus est venu et il l'a sauvé. Mais il fait une chose, il lui souligne sa faiblesse, homme de peu de foi. Il y a un verset qui dit que si nous avions une foi aussi grande qu'un grain de sénévé, Grégoire nous a parlé d'Internet, allez sur Internet et regardez une graine de sénévé, c'est tout petit, c'est minuscule. On dirait aujourd'hui une graine de pavot. C'est un petit truc de rien du tout. On serait capable de faire bouger les montagnes. Rien qu'avec une foi aussi grande qu'une graine de pavot. Dieu cherche des hommes en Christ qui osent se lever et qui gardent les yeux fixés sur Jésus. J'aurais pu intituler cette prédication Où sont les hommes? Ils cherchent des gens qui se lèvent dans leur foi. Ils cherchent des gens qui gardent les yeux fixés sur lui. Parce qu'il est capable de nous faire passer chacun de l'autre bord. Combien étaient dans la barque? Le récit ne le dit absolument pas. Combien étaient dans la barque? Un seul s'est levé. Un seul a commencé à marcher avec foi. Un seul. Est-ce que ce matin, on est des pierres? Est-ce que ce matin, on veut se lever dans nos vies avec notre foi, avec les yeux continuellement fixés sur Jésus? On parle de Jésus. La semaine prochaine, on verra, on parlera encore de Jésus. On sera content parce que cinq d'entre nous vont reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais aujourd'hui, après tant d'années, est-ce que je me lève dans ma foi? Est-ce que je garde les yeux fixés sur Jésus? Ou est-ce que je m'affole? Ou est-ce que je cours partout? Est-ce que je cherche les hommes pour me sauver de mes flots, de mes tempêtes? Est-ce que nous sommes ce matin ces hommes et ces femmes que Dieu cherche? Si on a reçu cette vie en Christ, on doit se lever dans nos vies. On doit marcher par la foi et avoir la certitude que l'esprit qui est en nous est un esprit de victoire. Et non un esprit de défaite. Même si les tracas de nos vies font que nous nous enfonçons, Jésus viendra et nous tirera de nos conditions. Et si ce matin on a des doutes sur la puissance de Dieu, si on doute que je ne suis pas assez bien, ou alors les circonstances de ma vie sont trop sales, sont trop difficiles, Dieu n'interviendra pas. C'est trop difficile, la situation est trop épouvantable. En Marc chapitre 10, verset 27, Jésus les regarda et dit, Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Dieu est capable de faire des miracles dans nos vies, même quand les circonstances, notre barque est emmenée à droite et à gauche, même quand nos circonstances sont complètement défavorables. Sachez que Jésus marche vers nous sur nos circonstances et il attend une chose, c'est qu'on se lève et qu'on garde les yeux fixés sur lui. Alors il viendra au milieu de nos tempêtes, et il nous tirera. Il donnera l'ordre au vent, à la pluie, à la mer de se calmer, et ils obéiront, ils se calmeront. Amen.